Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous psycho. La dépendance affective peut être définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. Elle est considérée comme un état pathologique lorsqu'elle provoque de la souffrance. Ötze Maria, psychologue, clinicien et psychothérapeute, est avec nous aujourd'hui pour nous aider à repérer la dépendance affective et surtout à nous donner les clés pour nous en sortir. Bonjour Ötze.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Par la première question, qu'est-ce que la dépendance affective?
La dépendance affective se caractérise par plusieurs tendances qui sont essentiellement, pour ne pas vous faire la liste de la CIM-10, la classification internationale, une avidité, une jalousie et surtout de manière centrale l'impression que sans l'autre, on s'anéantit, on n'existe plus. Donc c'est tout un ensemble de comportements qui sont captatifs, c'est ce qui est à toi est à moi, qui sont... Moi je parle de comportements fusionnels, c'est-à-dire cette tendance à ne faire qu'un avec l'autre. Et je ne parle pas de cette fusion qu'on peut voir avec la mère et son bébé par exemple, hein, ou cette fusion qu'on retrouve dans la passion amoureuse et qui dure quelques mois, et qui est normale et agréable, mais c'est cette fusion qui dure très longtemps, voire depuis l'enfance, hein, parce qu'on est passé généralement d'une personne à l'autre, et qui se marque, qui se signale par une peur permanente d'être abandonné.
D'accord, et on a donc ce sentiment-là depuis notre naissance, avec des référents qui évoluent en fonction de l'âge, mais qu'est-ce qui crée la dépendance affective?
Alors, ce n'est pas depuis l'enfance de manière innée, hein. C'est quelque chose qui va se construire dans l'enfance pour diverses raisons qui peuvent être d'ailleurs contradictoires, c'est-à-dire ça peut être des parents autoritaires ou au contraire des parents très laxistes. Ça peut être des parents, c'est généralement les parents ou les figures parentales qui sont difficiles à lire, qui sont un peu, voilà, on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut. Il y a des mères comme ça ou des pères qui peuvent aimer la proximité avec leurs enfants à certains moments, puis pas à d'autres. Et l'enfant ne comprend pas. Bon, après, il y a aussi tous les événements, les aléas de la vie, que sont les deuils, par exemple, les accidents. Un parent s'en va, la séparation des parents, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, etc. Tout ça fait que dans le système familial, vous allez développer un peu, beaucoup à votre insu, l'idée qu'il faut rester collé. Parfois, ce sont des injonctions familiales qui ne sont pas dites, mais qui sont actées, qui sont vécues, et qui disent la famille passe avant tout, il faut rester collé. Et vous développez ça sans vous en rendre compte, et donc vous vous installez à cette place-là. Voyez.
D'accord.
Et croyant dur comme fer que, et moi j'ai énormément de patients qui, à 40, 50 ans, croient encore que il faut rester collé à son papa ou sa maman. Ce qui se signale d'ailleurs par le fait que, me parlant de leurs parents, ils disent maman, papa.
Oui, ils ne disent pas mon père, ma mère.
Ils ne disent pas mon père, ma mère. À moi qui ne les connais pas, ils devraient dire mon père, ma mère. Mais alors, ils me disent, ah non, mais c'est vulgaire. Mon père, ma mère. Alors, ils caricaturent comme ça en faisant. Et je leur dis, ça, vous l'avez appris de vos parents qui eux-mêmes ont caricaturé. Ils vous ont sanctionné quand vous disiez mon père ou ma mère. Parce que dire mon père ou ma mère, ça vous éloigne. Ça met une distance entre vous et vos parents et ils ne la supportaient pas. Vous ne la supportez pas non plus, ce qui cause d'ailleurs les problèmes pour lesquels vous consultez aujourd'hui. Parce qu'il faut se décoller.
Oui, papa, maman, ça fait encore le petit enfant qui...
Exactement. Toute la problématique de la dépendance affective est une position infantile. Et d'occuper une position infantile vis-à-vis des autres en général, et en particulier de ses parents.
D'accord. Ça peut être effectivement donc, cette sensation-là, ce vécu-là avec ses parents, qu'après on peut reproduire avec les personnes que l'on va rencontrer.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été suffisamment sécurisé. On a un profil d'attachement pas sécurisé. L'attachement, ce n'est pas des sentiments. La théorie de Bowlby, donc un psychologue qui a élaboré cette théorie de l'attachement, a montré que chez les animaux, les mammifères et donc les hommes aussi, il y a un besoin primaire, donc qui ne découle pas d'un autre besoin. Hein, ce n'est pas parce qu'on a faim ou... besoin primaire d'attachement. Si l'enfant ne s'attache pas, on a montré qu'il pouvait mourir ou faire une dépression dite anaclitique, c'est-à-dire un effondrement total de la personnalité et mourir. On a vu ça par exemple dans des guerres où les enfants sont chauffés, nourris, mais personne ne s'occupe d'eux. Et alors là, ils se referment. Bon. Donc l'attachement, c'est une question de sécurité. L'enfant doit pouvoir trouver une figure vers qui se tourner pour se rassurer. Et les gens qui sont dans la dépendance affective sont des gens qui n'ont jamais été suffisamment sécurisés.
D'accord.
Ils ne sont sécurisés que dans la fusion à l'autre, la proximité, la trop grande proximité. Incapables de s'éloigner tout en conservant une sécurité intérieure. Il y a une très belle phrase de Canguilhem, un philosophe, qui dit que être normal, c'est pouvoir s'éloigner de la norme sans dommage. Ce que je trouve magnifique. On peut tout à fait l'appliquer à ça. C'est que c'est la sécurité intérieure, c'est quand on est capable de s'éloigner de ces figures d'attachement sans dommage.
Ouais. Quand on se sent assez solide et unique, qu'on a une unité en fait.
On a une unité, on sait qu'on ne va pas disparaître. Alors après, on peut développer ça, mais sur la question de la valeur, par exemple, les gens qui sont dans la dépendance affective sont toujours persuadés de n'avoir pas de valeur. Et la valeur ne vient que du regard de l'autre.
Ouais.
D'où l'importance d'être collé, parce que si l'autre regarde ailleurs ou s'en va, alors vous n'avez plus de valeur et vous vous effondrez. Vous dites, mais je ne vaux rien, je suis nul. Et c'est tout le problème. Et la thérapie consiste justement à construire une valeur intérieure, donc en même temps qu'une sécurité, parce que vous n'aurez pas de sécurité si vous n'avez pas cette valeur intrinsèque. C'est-à-dire, moi, je pense que moi, j'ai de la valeur. Vous voyez ? Donc évidemment, c'est un noyau, et à la marge, on a besoin de la critique des autres. Et qu'on dit,
non, mais il faut au moins un noyau dur auquel on croit, et
c'est
après
ça.
Le reste, on peut avoir effectivement, après aussi être parfois blessé, parfois, mais au final avoir une certitude que l'on vaut quelque chose. Quand
c'est
même,
ça. Et pour avoir cette certitude, bah, il faut des principes, il faut peut-être même un fil rouge dans sa vie en disant, mais je construis quelque chose dans ma vie, parce que, encore une fois, c'est une des caractéristiques de la dépendance affective, c'est de ne rien construire, de ne pas arriver à se projeter dans l'avenir en disant dans 5 ans, 10 ans, j'aurais fait ceci ou cela. Ça peut être artistique, spirituel, tout ce qu'on veut, moral, ça peut être une œuvre caritative, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être son travail, si, pour autant qu'il vous construise.
Tout à fait. Et alors, quels sont les signes justement d'une dépendance affective? Est-ce qu'on peut le repérer, par exemple?
Ben, on le repère avec tout ce qui a été dit là, c'est-à-dire par exemple
la jalousie. Dans la rencontre amoureuse. Ah oui, voilà.
Dans la rencontre amoureuse, c'est la jalousie, mais que j'appelle la jalousie fusionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une jalousie héroïque qui est autre chose. Mais la jalousie fusionnelle, c'est... J'ai fait d'ailleurs dans le harcèlement fusionnel, le livre, j'ai fait la comparaison entre la jalousie et l'hypochondrie. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont persuadés d'avoir toujours une maladie, un cancer quelque part, un truc. Alors ils écoutent leur pouls comme ça, ils disent « Ah, mais ça ne bat pas normalement, là. » Vous voyez, c'est être jaloux, c'est la même chose. Vous fouillez, vous épiez, vous dites « Il va me lâcher, là, mon corps. » Et s'il me lâche, je disparais. C'est exactement la même chose qu'avec la jalousie. D'ailleurs, souvent, ils ont les deux ou ils passent de l'un à l'autre. Donc la jalousie, c'est épier l'autre, fouiller ses poches, avec tout ce qui est d'excessif, hein. Parce que si l'autre me lâche, je suis anéanti. C'est vraiment existentiel comme peur, hein, comme angoisse. C'est une angoisse existentielle. Si l'autre s'en va, je ne suis plus rien. Puisque je n'ai pas de valeur tout seul.
Bien sûr.
Vous voyez ? Donc il y a la jalousie, l'hypochondrie. Il y a aussi le fait d'être blessé très facilement. C'est-à-dire une forme de susceptibilité, mais là encore fusionnelle.
Vous aurez exacerbé.
Comment ?
Exacerbé.
Exacerbé, mais c'est pas la même susceptibilité que quelqu'un qui vraiment vous bouffe l'oxygène, arrive, qui ne supporte pas qu'on le juge parce qu'il est très sûr de lui, etc. Là, c'est plutôt quelqu'un, la moindre remarque le mettra par terre. Pourquoi ? Parce que ça porte pas hein, sur ses capacités. Quand vous travaillez, quelqu'un vient vous dire là, il y a une faute, là, faut. Bon. C'est pas pour ça qu'ils sont blessés, c'est parce que ce simple petit truc qui est normal hein, dans un travail. Est traduit par eux comme une remise en question de la relation. Si l'autre me dit ça, alors il va me lâcher.
Donc, tout est ramené à chaque fois au scénario du pire.
Exactement. D'accord. Le scénario du pire, l'abandon. En fait, tout est ramené à l'abandon. Si je suis capable de faire une remarque à quelqu'un, c'est que je vais l'abandonner. Enfin, ce quelqu'un, s'il est fusionnel, c'est ce qu'il va penser. C'est que je suis capable de l'abandonner.
D'accord.
Et donc...
Et quand on est dépendant affectif, est-ce que ça peut se traduire par ce que l'on est au quotidien, dans notre manière de faire, d'agir peut-être ? Est-ce que ça peut se voir comme ça ?
Oui, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de détachement par rapport aux parents.
Ouais.
On reste collé, vous savez. Alors ça, quand on est adulte et qu'on a encore cette idée-là de manière implicite, souterraine, alors on est encore en position d'enfant, de ses parents, mais alors on vit aussi sa vie d'adulte comme un enfant. Ce qui fait qu'on va retrouver pas mal de choses infantiles, alors habilement cachées par les uns ou les autres. Je veux dire, ça peut être un doudou dans le sac à main, ça peut être de s'endormir avec la télé parce qu'on n'est pas capable de faire ses nuits tout seul, de se rassurer. Ça peut être une voix très enfantine une manière d'être très enfantine qui appelle à la protection de l'autre. Voilà, c'est toutes sortes de comportements enfantins qui sont décrits dans les quatre peurs qui nous empêchent de vivre. Voilà, mais après c'est à l'infini, hein. C'est une position de retrait généralement dans les réunions, on se met en retrait, la peur de parler en public ou même de parler à quelqu'un, tout simplement. La peur de téléphoner, c'est énormément de peur. La peur de
D'accord.
dire non, la peur de dire ce qu'on veut.
Et tout découle du coup de ce sentiment de
Tout découle
dépendance
de la
affective.
position basse, la position infantile que vous avez, qui elle-même est la position infantile face à vos parents. Vous n'êtes pas encore arrivé à la hauteur de vos parents, c'est-à-dire en tant qu'adulte. Il y a par exemple des femmes qui diront « je ne me sens pas femme ». Donc c'est un très grand sujet, la féminité, parce que la féminité ne concerne que les adultes. On ne parle pas de féminité ou de virilité d'enfant, hein, d'accord? Donc la féminité, c'est vraiment ce caractère de la femme adulte. Et beaucoup de femmes qui consultent ici disent « je ne me sens pas femme ». Alors elles peuvent donner des exemples d'actrices. Voilà, voilà une femme, voilà, machin. Mais pas elles. Elles ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore dans cette position infantile face à leurs parents. Même dire à leurs parents qu'elles fument ou qu'elles ont un copain, et parfois jusqu'à 40-50 ans, présente personne. Ça serait trop trahir les parents.
C'est incroyable. Alors, la dépendance affective, on peut la subir aussi, si c'est par exemple notre conjoint qui est dépendant affectif. Comment on doit réagir pour peut-être rassurer? Est-ce qu'on doit rassurer l'autre d'ailleurs? Comment on peut faire avec en fait?
Alors généralement, si on est en couple avec quelqu'un qui est dépendant affectif, c'est qu'on y a trouvé son intérêt à un moment donné, ne serait-ce que
Ouais.
quand on l'a rencontré, parce que si on est un peu conscient de tout ça, on le repère dès le début. Vous voyez? Alors
Ouais.
ça peut être charmant, hein, la femme enfant, le gars un peu mignon, là,
Et
qui
ça, au
est...
premier rendez-vous déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit un petit peu alerter
Alerté, j'en sais rien, parce que ça dépend des gens, mais disons que tout ce qui aura... Oui, la jalousie, par exemple, ça peut se voir si vous regardez votre téléphone et que l'autre fait la tête après. Une première rencontre, c'est quand même bon. Mais après,
Ouais.
alors, la première chose, c'est que si vous êtes en couple durable avec quelqu'un qui dépend dans l'affectif, c'est que probablement vous avez aussi une part de dépendance et que quelque chose vous a intéressé dans cette dépendance parce que vous l'avez peut-être confondu avec le sentiment amoureux, le fait d'être engagé pleinement dans la relation, tu me manques, etc. Et puis petit à petit, vous voyez que l'autre a besoin d'écrire 20 textos par jour, il a besoin que vous répondiez tout de suite, etc. Donc comment réagir là, un peu trop tard finalement, parce qu'il faudrait réagir lors de la rencontre.
Ouais.
Alors moi, je donne une petite astuce, si on veut, que j'ai nommée PCR, hein, parce que c'est un peu la mode.
Oui,
Donc,
j'ai envie de vous dire, ça me rappelle quelque chose, mais
ça
oui.
n'a rien à voir avec le test PCR, ça veut dire plainte, conseil, reproche.
Ah.
PCR, plainte, conseil, reproche. Alors, vous disiez, est-ce qu'il faut rassurer l'autre? Dans une certaine mesure, on a tous besoin, à certains moments, d'être rassuré, valorisé, etc. Mais ça ne peut pas être systématique.
Ouais.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si c'est systématique, alors l'autre vous délègue ses responsabilités et il va rester en position d'enfant. Il ne pourra pas évoluer. Donc, vous serez en couple avec un enfant. Vous serez même au pire deux enfants en couple. C'est-à-dire que chacun demande à l'autre, protège-moi, valorise-moi, sécurise-moi, etc.
Faire des caprices.
En réalité, ce qu'il faudrait dire, c'est sers-toi de la relation, de nos sentiments, de notre amour, pour te valoriser, pour devenir capable de te valoriser, de te sécuriser toute seule ou tout seul. Vous voyez? Et ne me demande pas à moi de le faire. Donc ça, il faut repérer ce genre de demandes primaires, qui sont les demandes de l'enfant, valorise-moi, protège-moi. Et que chacun prenne sa part. Et c'est comme ça qu'on peut faire un couple durable et intéressant. Non,
Oui, c'est
c'est un
ça.
couple d'enfants. Donc PCR, ça veut dire que si l'autre est tout le temps dans la plainte, eh ben, ne répondez pas à la plainte par exemple par des conseils. Donc j'ai mal au dos, prends un Doliprane. Donc l'autre ne prend pas de Doliprane. Donc vous en arrivez au reproche. Je t'avais dit de prendre un
Oui, c'est la
médicament.
suite classique.
C'est classique. Alors vous voyez que ça fait une boucle. Parce qu'il y a une caractéristique intéressante chez le dépendant affectif, c'est que du point de vue de sa position infantile, il a une pensée un peu à l'envers. C'est-à-dire que la pensée à l'endroit, disons, de l'adulte, c'est vous avez un problème, vous trouvez une solution et vous avancez. La pensée à l'envers, c'est vous avez un problème, on vous donne une solution, vous redonnez un problème. Et ça vous permet de tourner en rond. Vous voyez? Donc le dépendant affectif, c'est un idéal type, hein, c'est pas, voilà. c'est quelqu'un qui vous amène des problèmes. Donc ne vous enfermez pas dans cette boucle de problème-solution, c'est-à-dire qu'à vous de donner des solutions qui ne seront pas prises en compte et ainsi de suite. Donc on vous amène une plainte, vous ne donnez pas de conseils, vous pouvez tout à fait faire preuve d'empathie.
Oui, c'est ça, parce qu'après c'est difficile de dire, mais tu m'aides pas, tu
n'as rien à faire de mes problèmes. Quelqu'un dit, j'ai mal au dos, vous dites, bah, oui, je comprends, ça fait mal, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous pouvez faire le psy en posant des questions.
À l'envers, un petit peu. Enfin,
Oui, vous ne prenez pas de décision à sa place. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour ton mal de dos ou pour, Alors, ouais, mais j'en sais rien, justement. Bon, bah, écoute, moi non plus, donc essayons de trouver. Voilà. Interdisez-vous les reproches systématiques, les plaintes systématiques, même de votre part à vous, et les conseils systématiques. Autrement dit, vous gardez, vous construisez une limite, un espace. Vous n'êtes pas collé. Parce que la dépendance affective, ce n'est pas uniquement dans le couple, ça peut être parent-enfant.
Oui, c'est ça.
Ou entre amis, ou voilà. C'est toujours ce scénario qui va se répéter. De je me plains, moi je, etc.
Très bien. Et alors, j'imagine que oui, vous apportez des débuts de solutions. Est-ce qu'on peut sortir de la dépendance affective et
bien
comment
sûr. Alors, comme ça, c'est-à-dire en mettant par exemple en pratique, là, quelqu'un est venu la semaine dernière, revenu cette semaine avec le PCR, parce que j'ai écrit un petit truc, qui d'ailleurs est dans le livre, là, Les 4 peurs, mais que j'ai sorti, moi, pour réécrire et envoyer aux gens qui consultent. Et il se trouve qu'elle a pu, qu'elle s'est retrouvée dans un week-end avec une dizaine d'amis et elle l'a mis en pratique. Elle était super contente parce qu'elle dit « mais je suis complètement différente ». C'est-à-dire, autant avant, j'étais là à sauter pour aider les gens, à être toujours trop loin, trop… Et donc, je me fais avoir parce que je fais tout. Voilà. Alors que là, les gens m'ont raconté leurs problèmes, me dit-elle, et je restais à distance, à la bonne distance. On n'aide pas les gens qui ne vous demandent pas d'aide, vous voyez. Donc ils vous racontent leur malheur et puis vous dites bah oui je comprends ouais je voilà et elle avait senti vraiment une transformation intérieure, c'est ça qui doit se produire avec cette simple règle hein. mais de toute façon il faut travailler auprès de ses parents, c'est-à-dire que il faut vraiment questionner la position qu'on a vis-à-vis de ses parents, qu'ils soient là ou pas hein, qu'ils aient disparu ou pas, c'est-à-dire ils sont aussi intériorisés à travers leurs règles, leurs injonctions, etc. Donc, bah, comment on travaille, ça, tout dépend des relations que vous avez. Si vous appelez votre maman tous les jours et que vous avez 40 ans, il y a un petit souci. Vous êtes beaucoup trop près, mais c'est à vous de juger
dépendant,
si vous êtes trop
en fait,
près, vous êtes dépendant. Donc, il y a des gens, je leur demande d'espacer. Effectivement, on voit les progrès qui se font intérieurement quand vous êtes capable de supporter cette frustration-là. Dire, je ne vais pas appeler ma maman aujourd'hui, je l'appellerai demain, puis après vous arrivez à faire une semaine et un peu plus. Voilà, c'est aussi l'attitude face à la volonté des parents qui veulent savoir ce que vous faites. Il y a une transparence, il ne faut pas qu'il y ait de transparence. Vous ne pouvez pas raconter votre vie sexuelle à vos parents, ou vice-versa d'ailleurs. Il y a des parents qui racontent leurs problèmes de couple, tout ça.
Oui, c'est deux adultes différents et qui n'ont pas...
Il y a des limites. Voilà, si vous ne voulez pas voir les limites, vous serez fusionnel, donc dépendant affectif, et tout ça mettra votre vie en l'air. Vous ne réussirez pas parce que c'est très difficile de réussir en tant qu'enfant dans une vie d'adulte, un monde d'adulte. Oui.
Et donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel, hein, c'est ça? On voit ça en thérapie, généralement?
Bien sûr, c'est un sujet qui est traité, qui est très fréquent. Hein. Donc, mais d'une manière générale, nous avons tous à devenir toujours plus adultes. Il n'y a pas un seul adulte sur cette planète. Il suffit de penser à la manière dont vous mangez, la manière dont vous vous couchez, les pulsions que vous pouvez avoir comme ça. Vous êtes possédé par le chocolat à 22h. Il faut absolument le chocolat. C'est très infantile. Hein, oui. Pour en citer des choses. Bon, on a tous une part... D'ailleurs, il ne s'agit pas d'éradiquer l'enfance. Parce que ce que j'appelle l'enfance, là, quand je parle aux gens en thérapie, ce n'est pas de leur enfance, ce n'est pas de leur histoire d'enfant, du petit enfant qu'ils étaient, le petit bonhomme ou la petite... non, c'est ce que j'entends par enfance, c'est en fait l'élan de vie qu'on a, parce que c'est ça l'enfance, c'est le jaillissement de vie, l'élan vital si on veut, hein, qui nous traverse, mais en même temps l'étonnement, la curiosité, l'enthousiasme, tout ce qui est comme ça très fort, mais qui est en même temps très, très pulsionnel et très chaotique. Donc ça, il faut le garder, mais par contre il faut le dominer.
C'est
pour ça que, par exemple, Picasso disait qu'il avait passé sa vie à apprendre à dessiner comme un enfant. Évidemment qu'il ne dessinait pas comme un enfant. On n'expose pas les enfants au Louvre. Hein. Mais il avait retrouvé cette source-là, jaillissante, vous voyez, pure, de vie, la même qu'on trouvera dans n'importe quelle plante, n'importe quelle... Voilà, c'est volonté de puissance, dirait Nietzsche, hein, par exemple, qui c'est ce besoin de jaillir, de se déployer dans l'existence. Mais il avait passé sa vie à le dominer pour en faire quelque chose d'extrêmement artistique, même spirituel, hein, quelque part. Donc c'est là, la puissance, elle est là. C'est ça qui est magnifique dans le fait de devenir adulte, c'est que vous avez des pouvoirs. Pouvoir de diriger votre vie, voyez, ou d'accéder même à des stades spirituels, ce que vous voulez. Mais
oui, c'est un travail qu'on a à faire sur
c'est
nous.
C'est un travail, oui, qu'on a tous à faire. Ouais.
D'accord. Donc voilà, si on souffre de dépendance affective, il ne faut pas hésiter à aller consulter un professionnel. Et si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, donc Eudes, vous avez écrit un ouvrage, donc Le harcèlement fusionnel, les ressorts cachés de la dépendance affective. C'est ça, on y retrouve. Donc tout ça, mais bien sûr, très étayé.
Oui, développé. Et pour partie, ce que j'ai pu dire se trouve dans d'autres livres. Alors bon, je veux pas.
Et qui se trouve également déçus, si vous... dans d'autres livres. Eudes et Myriam, merci beaucoup.
Merci à vous, merci
et
de votre
accueil.
Et puis
bien sûr, on mettra toutes les références donc, du livre et puis le site internet également de Tsemeria pour connaître son travail dans le descriptif de cette vidéo. Un grand merci.
Merci à vous.
Et à bientôt.